région, à nos portes, un meurtrier a abattu froidement plusieurs personnes, dont trois enfants, qui étaient l'innocence même. Et pendant que nos cœurs saignent, certains loups hurlent déjà à la mort. Il faut rétablir la peine capitale. Il faut faire la guerre à un tel ou un tel. Si de nouvelles bêtes rôdent parmi nous, on voit que les anciennes ne sont pas encore toutes éradiquées. Ces hurlements nous rappellent que vigilance et résistance sont les seuls mots d'ordre de tout amoureux de la République quand la barbarie, la folie et les extrémistes de tous bords s'attaquent à ses valeurs. Bonjour à toutes et à tous, vous êtes sur CFM 90.2 et il est l'heure de Tout ce qui est humain est notre, l'émission animée par les bénévoles du Secours Populaire de Villefranche-de-Rouergue. Je suis Didier et comme d'habitude, j'ouvre le bal.
Bonjour, c'est Nicole. Je continue.
Bonjour, c'est Gilbert, bénévole du centre du SPF de Rodez.
Bonjour, c'est Paul. C'est le printemps aujourd'hui et nous allons parler du printemps de la solidarité.
Bonjour Jacques, membre de la commission Monde de la Fédération de l'Aveyron.
Bonjour Martine, bénévole du Secours Populaire à Rodez, responsable du secteur Copains du Monde.
Ben voilà une nouvelle venue, Christiane, responsable de l'association Les Enfants de Madagascar et partenaire du Secours Populaire de l'Aveyron.
Et Jean-Michel, le président de l'association Les Enfants de Madagascar.
Bien, ben aujourd'hui nous sommes nombreux donc au rendez-vous de la solidarité. Alors au sommaire de cette émission, ben ça va être le monde et tout ce que le Secours Populaire peut y faire. Alors en première partie, nous aurons les représentants de la commission Monde qui vont nous expliquer un peu la campagne mondiale qui est en solidarité mondiale qui est lancée en ce moment. Et par le biais aussi des copains du monde. Ensuite, nous aurons un peu de musique. Et ensuite, nous irons là où nous connaissons le mieux, c'est-à-dire Madagascar, où nous avons la joie aujourd'hui donc d'avoir des représentants du Secours Populaire là-bas sur les lieux. Enfin, ils vous expliqueront un peu ça. Et nous avons la joie de les recevoir aujourd'hui dans une émission un peu donc spéciale. Ensuite, nous ferons une nouvelle petite pause musicale. Et en dernier lieu, eh bien, nous continuerons à développer notre sujet. Madagascar. Bien, alors, ce lancement de la solidarité mondiale, Paul, est-ce que vous pouvez nous en dire deux mots ?
Le Secours Populaire, chaque année, au mois d'avril, essaie de faire comprendre à tout le monde qu'on n'est pas seulement solidaire de ses voisins, on est d'abord solidaire de ses voisins, mais on est aussi solidaire de tous les besoins du monde. Pour ce qui est de l'Aveyron, nous consacrons à peu près 2% de nos ressources à la solidarité mondiale. Ça paraît ridicule par rapport à l'énormité des besoins. Mais comme ces populations sont pauvres, à Madagascar par exemple, le SMIC est à 60 euros par mois. Avec 60 euros, vous payez un mois de salaire d'un maçon. Donc, avec 2% de notre budget solidarité, on peut faire des choses importantes. L'Aveyron et la région Midi-Pyrénées a pour le moment un programme au Salvador, un programme qui consiste à aider des femmes que nous avons déjà rencontrées dans des actions antérieures à devenir autonomes. Elles le sont à peu près économiquement à la suite des actions que nous avons menées avec elles. Nous souhaitons qu'elles le deviennent sur le plan juridique et social. Nous avons aussi un programme en Inde, dans le sud de l'Inde, au Tamil Nadu, où là, les personnes que nous aidons sont des veuves. Vous savez que la condition de veuve en Inde n'est pas toujours enviable. Notre action consiste à leur permettre d'acquérir le permis de conduire des rickshaws, qui sont des sortes de taxis. D'abord le permis de conduire, et ensuite la machine elle-même, dans un système mutuel qui fait que la première qui est en taxi le passe à une seconde, et ainsi de suite. Nous en sommes à la sixième veuve que nous équipons cette année. Les autres actions pour la région Midi-Pyrénées concernent essentiellement Madagascar. On va en parler plus largement. Et l'opération Copains du Monde qui, elle, est menée en direction des jeunes. Nous vous en dirons plus tout à l'heure.
Alors les copains du monde, Parlez-nous un peu de cette action, de ça, quoi.
Voilà. Sur le plan national, bien sûr, il y a de nombreuses régions où le mouvement est déjà existant. En Aveyron, on tournait autour depuis 2-3 ans, parce qu'il faut lancer l'opération et puis après la suivre. Cette année, c'est fait. Nous allons commencer concrètement par une journée de chasse à l'œuf, qui est une action traditionnelle du Secours populaire. Mais nous allons la faire à travers le Conseil municipal des enfants de la ville de Rodez, pour toucher en fait toutes les écoles publiques et privées de la ville de Rodez. Alors, je me suis rapprochée en tant que bénévole de la mairie de Rodez, des gens chargés de l'éducation. Donc la mairie nous aidera à baliser la ville, à sécuriser l'action, qui consistera, si vous voulez, en une après-midi, à travers une sorte de jeu de piste dans la ville, de questionnaires-réponses autour des droits des enfants, nous permettra d'accrocher ces enfants qui eux-mêmes sont déjà élus de leur classe, donc qui sont rentrés dans une dynamique d'éducation citoyenne qui est intéressante. Mais pour qu'ils se sentent concernés plus particulièrement, nous avons pensé à les raccrocher à ce que nous faisons à Madagascar. Et donc, le jour de la chasse aux œufs, comme nous aurons à peu près une centaine d'enfants, nous allons les scinder en deux et une équipe partira sur ce jeu de piste droit des enfants. L'autre moitié étant rassemblée dans la mairie de Rodez, où nous leur proposerons une projection des documents que nous ont apportés Christiane et Jean-Michel. On leur a demandé de se prêter à un jeu de questions-réponses pour que les enfants réunis dans l'amphithéâtre puissent poser des questions concrètes. Le but de tout ça étant bien sûr de sensibiliser les enfants à la solidarité internationale et par la suite nationale aussi, en pensant que justement là il y aurait un témoignage direct d'enfants de là-bas par rapport à des enfants d'ici, et ça nous semblait l'occasion d'initier des actions avec l'ensemble des écoles. Il y a déjà eu ponctuellement des actions sur les collèges, parce que dans les collèges ou les lycées, il y a des jeunes qui sont suffisamment sensibilisés pour eux-mêmes lancer une démarche. Et donc là, le Secours populaire vient en appui. Cette année, nous avons choisi de travailler avec un public plus jeune pour sensibiliser les primaires.
D'accord, de toute façon c'est tout à fait dans la politique actuelle du Secours populaire qui veut s'ouvrir vers les jeunes, hein, au niveau solidarité. Nous-mêmes d'ailleurs, j'en profite pour faire une petite parenthèse, c'est que nous allons aussi avoir le lycée Savignac, qui déjà est en action avec nous par le biais de ces jeunes boulangers qui nous fournissent du pain régulièrement pour les repas, les colis que nous distribuons. Va aussi initier une action le 23 mai. Alors ils savent pas trop encore, un tournoi de foot, une brocante, dont tous les bénéfices reviendront à Madagascar, pour l'action à Madagascar. Donc c'est une bonne nouvelle. Là aussi, des jeunes qui s'intéressent à la solidarité, c'est toujours assez sympa. On va faire notre première pause musicale alors. Alors, la première pause musicale, c'est Monsieur et Madame Bourrel qui m'ont ramené des disques. Alors, je vais lire le titre, c'est Gassicara. Vous pouvez m'en dire deux mots, vite fait.
Vous avez reprononcé, si vous voulez.
Alors, c'est Gassicara.
Ah, voilà, je savais bien. Allez, c'est parti. C'est
Tonight, my deep body, my
baptiser. Bye. Mani, mani, mani.
Vous êtes toujours sur CFM 90.2, c'est toujours votre émission animée par les bénévoles du Secours Populaire de Villefranche, tout ce qui est humain est nôtre. Maintenant, le deuxième chapitre de notre émission, c'est Madagascar, puisque l'Aveyron et Villefranche a des actions là-bas directement. Alors, Nicole, est-ce que vous pouvez nous dire comment on met en mouvement la solidarité à Madagascar ?
Eh bien, on l'a mise en mouvement en 1993. Je constate que ça va faire 20 ans l'année prochaine. Il va falloir qu'on le fête, Paul. Hein. Et pourquoi ce coup de cœur soudain pour Madagascar ? C'est que Paul y a vécu 3 ans et il est revenu malgache. Hein.
J'ai l'impression
Preuves. Je suis allé chez eux parfois, ils ne mangent que du riz. Que du riz, que du riz, que du riz.
J'ai l'impression que quand on va sur cette île, on tombe amoureux.
Hein. Oui. Et oui, et c'est très contagieux parce qu'il y a beaucoup de Villefranchois maintenant qui partent régulièrement aider justement nos amis, les Bourrel, participer avec eux à la solidarité là-bas. Moi j'ai ma fille qui est allée l'an dernier 3 semaines, elle ne rêve que d'une chose, c'est d'y repartir. Et elle en rêve. au début c'était pas les Bourrel, enfin nous on les appelle les Bourrel, hein. Monsieur et Madame Bourrel, c'était, moi je me souviens toujours, un prêtre qui est venu du reste chez Paul, et il avait un anorak noir tout tristouné, et puis 2 ans après il est revenu, il avait été élu évêque, il avait toujours son petit vêtement noir tout, et c'était lui à l'époque le partenaire. On avait commencé avec des religieuses et lui.
Et il s'est taillé un succès important en affirmant, comme ça, au fil d'une conversation, vous savez, à Madagascar, il n'y a que les pauvres qui vont en prison, hein, comme en France.
Oui, c'est vrai qu'il était sympathique, on va dire. Hein. Et donc, c'est toujours intéressant, grâce à Paul, on avait des contacts sûrs là-bas. On savait que ce que l'on faisait. Du reste, je me souviens, moi, qu'on leur avait envoyé du lait en poudre à un dispensaire tenue par des religieuses, où il y avait les enfants, il y avait des enfants qui mouraient de faim, des nourrissons. Ils nous avaient même envoyé des photos en disant ben, celui-là, il est mort. Bon. Et donc, les producteurs de lait de l'Aveyron nous ont fourni je ne sais plus combien de tonnes de lait en poudre. On avait une photo, Paul et moi, à Montauban, quand ils ont emmené les sacs. Et puis, quelques temps après, on a reçu une photo, les mêmes sacs, mais avec les infirmières et le dispensaire. Donc, c'était bien arrivé en place, ça y était. Et c'est à la suite de ça qu'on a eu, parce que c'est aussi le principe du secours, c'est de réagir dans l'urgence, mais après, d'essayer de les rendre autonomes. Et donc, on a réussi à avoir un fonds de tiroir d'une dotation européenne. Et donc, on a pu leur faire construire une étable, leur mettre des vaches, chambres froides, etc. Et maintenant, ben, ils n'ont plus besoin de nous. Ils ont leur lait. Et tout tourne bien, quoi. On est passé à autre chose, on va dire.
Non seulement ils n'ont plus besoin de nous, mais des commerçants pakistanais, à 60 km au nord de Moranda, de l'endroit où nous étions intervenus, ont repris cette même formule entre des producteurs de lait et un dispensaire. Des commerçants pakistanais.
Oui, donc moi, je voudrais intervenir par rapport à Nicole. Elle parlait de 1993, et on est 20 ans après, toujours sur Madagascar, et notre association connaît bien le dispensaire dont parlent Nicole et Paul, qui est le dispensaire de Fanantenana, et ce dispensaire existe toujours et s'occupe toujours d'enfants malnutris, et depuis cette opération lait il y a 20 ans, effectivement, le dispensaire récupère toujours du lait sur place, donc grâce à sa ferme, grâce à ses vaches, mais a mis aussi en place depuis un laboratoire de fabrication de spiruline à partir d'algues vertes, et cette spiruline maintenant sert autant pour les bébés malnutris que pour les enfants en bas âge ou les personnes âgées qui manquent de produits vitaminés. Et dans ce dispensaire, il y a deux ou trois personnes que l'on connaît bien et que les Villefranchois connaissent bien aussi, des Malgaches, qui s'occupent de formation de nutrition auprès des mamans en brousse, qui souvent ne donnent que du riz à leurs enfants, même les enfants en très très bas âge, hormis le lait du sein maternel et du riz, les enfants n'ont rien d'autre. Et depuis ces années 93, petit à petit, une formation est donnée à ces mamans pour essayer de diversifier la nourriture et surtout pour donner de la vitamine aux enfants.
Je vais jouer ma Gisèle puisqu'elle n'est pas là aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est la spiruline ?
Alors la spiruline, en fait, c'est surtout un complément alimentaire à base d'algues. Donc ce sont des algues vertes qui à l'origine viennent du Mexique, qui ont été implantées dans des bassins à Madagascar. Elles sont élevées, ces algues, dans des bassins, et à partir de toute une chaîne de culture et ensuite de fabrication, on en fait une poudre très très fine que l'on donne sous certaines formes de rations dans le riz aux enfants, aux personnes âgées, aux gens qui ont des carences alimentaire.
D'accord.
La spiruline est comme il le dit, une algue, mais elle a la propriété d'être composée de minéraux et de protéines biologiquement équilibrées. Je ne sais pas comment on peut dire ça.
Bien facilement assimilable.
Et très facilement assimilable. C'est un complément alimentaire à peu près parfait.
Voilà, donc tout ça pour dire que 20 ans après, le dispensaire est toujours là, il fonctionne en autonomie, et ce dispensaire que l'on suit toujours par des petites actions, à savoir de temps en temps amener quelques médicaments bien précis, amener des fauteuils roulants, amener du paramédical, amener quelques éléments pour faire tourner le bloc radio, etc. dans ce dispensaire. Il faut savoir que ce dispensaire maintenant à 99% est autonome, et que cette cette action qui a été menée il y a 20 ans est une action pérenne et dont les Malgaches maintenant n'ont pratiquement plus besoin de notre soutien et que ce dispensaire gère autour de lui une énorme population de brousse et on pourrait dire que ce dispensaire est obligatoire dans cette région parce que s'il n'était pas là, l'État, lui, malgache, n'a pas d'hôpital, n'a pas de relais médicaux dans la région.
Jacques voulait dire deux mots.
Oui, toujours à propos de ce dispensaire. D'abord, il fait partie de l'histoire de notre coopération avec Madagascar, parce que c'est au tout début. Ensuite, il y a à l'entrée du dispensaire une affiche qui dit « Les soins sont gratuits, sauf pour ceux qui ont des moyens et qui sont priés de payer ». Enfin, c'est parfaitement... Et troisièmement, il est équipé d'un appareil de radiographie qui fait de très bons clichés. Ils ont eu des difficultés à l'installation, mais maintenant c'est parfaitement fonctionnel.
Il me semble que j'avais entendu que ça avait été toute une aventure.
Oui, tout à fait. Oui. On avait perdu la documentation, enfin bon. Mais il y a autre chose aussi que l'on peut dire, c'est que pendant des années, le dispensaire a été approvisionné en médicaments grâce à l'association IACA de Madame Pousse à Villefranche, qui a envoyé je ne sais combien de colis et qui tous étaient répertoriés. On avait chaque fois la preuve que le colis était bien arrivé et la pharmacie est tenue de façon admirable, très méticuleuse. Donc c'est une autonomie qui est bien méritée vraiment.
Précision, le dispensaire en question donc, est fourni à lait de vache frais aujourd'hui, pas du tout en lait en poudre. Les vaches sont élevées dans une école d'agriculture luthérienne. Le dispensaire est catholique.
Moi je... C'est l'œcuménisme en action.
Oui, mais dans ma cervelle de français, je me disais qu'au moment de rendre des comptes, on aurait des problèmes. Et bien voilà, donc je suis allé à Madagascar tout exprès pour essayer de voir quelles étaient les comptabilités des uns et des autres. Et j'ai réalisé que le comptable était le même pour les deux structures. Donc c'était parfait. Je me suis payé un voyage pour rien.
Le verre est dans l'œuf.
Bien, vous nous parlez de Madagascar, vous nous parlez il y a 20 ans des conditions assez précaires, vous nous parlez de brousse, mais ce serait bien un peu de situer pour nos auditeurs qui connaissent pas trop un peu Madagascar, comment c'est, qu'est-ce que c'est rapidement. Peut-être Madame Bourrel, parce que Monsieur Bourrel a beaucoup parlé déjà, non, elle fait signe que non.
Bon, mais Madagascar, en fait, c'est une île. C'est une île qui se trouve dans l'océan Indien et qui se trouve le long de l'Afrique. Cette île représente en surface la France et la Belgique réunies. Donc c'est une des grandes îles de la planète. Et ce que l'on peut dire, c'est que cette île a un sommet qui culmine à plus de 3000 mètres d'altitude. Donc l'île a une épine dorsale très importante, avec au centre de l'île des hauts plateaux, des hautes terres, et bien évidemment tout le tour l'océan Indien. Alors la partie qui se trouve face à l'Afrique s'appelle le canal du Mozambique, qui représente environ 300 km de large entre l'Afrique et Madagascar. Et ensuite, de l'autre côté de Madagascar, la côte est, c'est la partie qui est face à l'île de la Réunion, face à l'île Maurice, qui est le grand océan Indien que tout le monde connaît. Pour se rendre à Madagascar, il suffit en avion de descendre toute l'Afrique sur le même fuseau horaire. Et nous sommes en gros à 10 000 km de Paris jusqu'à Tananarive, la capitale.
Et combien il y a d'habitants ?
Alors en termes d'habitants, c'est 20 millions d'habitants environ, sur une surface qui est une fois un quart de la France.
Et il y a 50 ans, à l'époque où j'y étais, il y avait 3 800 000 habitants. Pour passer de 3 800 000 habitants à 20 millions, je ne sais pas si vous voyez ce que ça veut dire. L'Europe a mis 200 ans pour faire cette transition et elle a colonisé la moitié du monde.
Et au niveau de tout ce qui est revenu, tout ça, quel est le niveau de vie, quels sont les salaires, quel est...
Alors d'un point de vue économique, on peut dire que Madagascar est un des pays les plus pauvres de la planète Et je précise bien d'un point de vue économique, puisque Madagascar a de nombreuses richesses, richesses minérales, richesses halieutiques, richesses en termes de culture, etc. Ce que l'on peut dire aussi, c'est que cette richesse, elle est mal répartie, elle est bien souvent captée par des grandes puissances, soit économiques, soit politiques. Madagascar est depuis des années et des années, on pourrait dire depuis la décolonisation, dans un flou politique et économique assez irréel par rapport à notre mode occidental, mais le pays avance K1K1. Et ce que l'on peut dire par rapport à la situation de la population, c'est que, comme le disait Paul tout à l'heure, un salaire, disons, qui correspondrait à un SMIC de chez nous, c'est entre 50 et 60 euros. Mais la plupart du temps, ce SMIC n'est pas considéré. Et on peut dire que les gens ont un salaire moyen à la campagne de 30 à 40 euros par mois, 1 euro par jour. Voilà en gros le salaire d'un agriculteur à la campagne, puisque ce qu'il faut dire aussi, c'est que 80% de la population à Madagascar vit à la campagne et vit de la campagne. Il y a très peu d'échanges à Madagascar, puisqu'il n'y a pas d'infrastructure, pas beaucoup de routes, pas beaucoup de communications. Même si au jour d'aujourd'hui, le téléphone portable envahit l'île, il y a peu de communications en termes routiers. Les déplacements coûtent très cher, puisque l'essence, le gaz, sont au même prix pratiquement qu'en Europe. Avec un niveau de vie à 50 euros par mois, on peut très difficilement acheter du gasoil pour se déplacer. Donc, hormis les opérateurs économiques, les routiers, il y a très peu de gens qui circulent. Et donc, les marchandises ne circulent pas beaucoup non plus. Et les 3 ou 4 grandes villes de l'île accaparent l'ensemble de l'économie. Dès que l'on sort de ces 4 ou 5 grandes villes, on se retrouve dans ce que j'appelais tout à l'heure la brousse, c'est-à-dire des lieux où il est difficile de se déplacer, difficile d'accéder. D'abord parce qu'il n'y a pas d'infrastructure, et ensuite à certaines saisons, comme la saison des cyclones, saison des pluies, les pistes sont en très mauvais état, beaucoup de boue, beaucoup de difficultés d'accès, et donc les gens restent chez eux, et c'est bien souvent de l'échange, et ce n'est pas du commerce au sens où nous on l'entend. Les paysans bien souvent échangent les quelques légumes qu'ils font, le quelques riz qu'ils produisent, l'échange contre des bougies, des allumettes, du savon, etc., etc. Il y a beaucoup de troc.
D'accord. Donc, pour en revenir tout à l'heure, rebondir ce que disait Paul tout à l'heure, ce qui permet effectivement, avec quelques moyens, pas si énormes que ça, de faire des choses assez, assez importantes dans ce pays, pour nous, au niveau association.
Ben oui, effectivement, avec notre niveau de vie et avec les possibilités que l'on a, nous, en Europe, on peut intervenir dans des pays de ce type-là, je dirais, entre guillemets, à moindre frais. Et en tout cas, quand on intervient, nous, au niveau soit de notre association, les Enfants de Madagascar, ou en tant que partenaire du Secours Populaire, on intervient sur des projets malgaches. On n'intervient pas sur des projets que nous créons là-bas. Nous ne sommes pas à Madagascar pour créer des projets, ni pour leur apporter la bonne parole. On n'est pas là pour ça. Les Malgaches sont suffisamment intelligents et adaptés à leur pays pour avoir des projets. Et bien souvent, ces projets-là, ce sont des projets qu'ils peuvent mener à terme, mais ils n'ont pas les moyens d'amener à terme ces projets. Et en général, c'est une collaboration que l'on apporte sur ces projets-là. Et c'est jamais des projets que l'on va soutenir à 100%, puisque les Malgaches qui nous proposent des projets ont souvent une capacité à un certain niveau, 10, 20, 30% d'amener ces projets, mais c'est un petit coup de pouce complémentaire qui nous permet de les aider. Et depuis 20 ans que l'on est sur Madagascar, nous pouvons dire que grosso modo, tous les projets que l'on a menés à Madagascar sont des projets qui sont arrivés à terme et qui, en fait, n'ont pas coûté très très cher, puisque nous ne sommes pas non plus à Madagascar dans des règles et des normes européennes.
Oui, mais c'est aussi la preuve d'une culture particulière que nos partenaires savent respecter et, j'allais dire, utiliser et valoriser. On pourrait multiplier les exemples. Nicole et Jean-Michel ont parlé tout à l'heure du fait que le dispensaire Falentinian de Morondave est devenu autonome et d'une certaine manière exemplaire dans sa région. Mais l'école d'Ampatima, sur les hautes terres, c'était, jusqu'à notre intervention, l'école d'une région de salariés agricoles exceptionnelle pour Madagascar, parce que c'est une région où on récolte des céréales pour faire de la bière. C'est de l'agro-business, d'une certaine façon. Donc, ces gens-là n'ont pas de gros salaires, ce sont des fermiers dans des conditions assez misérables. Et leur école était le reflet de leur situation. Le ministère de l'Agriculture malgache était plus préoccupé par des urgences ailleurs. Et les parents d'élèves avaient d'autres chats à fouetter. Le fait que Jean-Michel et Christiane les repèrent et nous proposent de les aider a abouti à ce qu'avec, au total, sur 2 ans, moins de 3000 euros, cette école est devenue la référence pour la région. Quand les inspecteurs veulent donner des cours de pédagogie à leurs instituteurs, c'est là qu'ils les rassemblent. Bon, avec 3000 euros, on a refait la cour, les clôtures extérieures, les salles de classe intérieures, pas le toit, pas encore. et le salaire de certains instituteurs, voilà. Le rapport qualité-prix est intéressant.
Oui, alors Paul parle de cette école de Ampatrima, qui en fait est une école publique primaire qui se trouve dans une région agricole dont on parlait tout à l'heure, en pleine brousse, et dont la plupart des enfants sont des enfants de familles d'ouvriers agricoles. Et j'en reviens à ce que je disais tout à l'heure, avec un salaire qui est d'environ 60 centimes d'euros par jour, les jours où on travaille. Vous pensez bien que ces parents-là ne peuvent pas payer déjà une école privée à leurs enfants et ont du mal à leur payer les fournitures scolaires et également l'amélioration de leur école. Donc cette école étant en très mauvais état, les parents d'élèves, par l'intermédiaire de leur Rai Mandrini, le Rai Mandrini, c'est le sage un peu de l'équipe, c'est le président des parents d'élèves, nous a demandé s'il était possible d'intervenir en termes de secours populaire pour améliorer cette école. Alors, il y avait des crépis qui tombaient à l'intérieur des salles de classe, c'était très humide, il y avait l'eau de la cour qui ruisselait jusqu'à l'intérieur. Donc, quelques travaux ont été menés depuis 2 ans, avec, comme le disait Paul, la réfection intérieure des salles de classe, des trottoirs devant les salles de classe, avec des canalisations d'eau pour la période cyclonique. Et donc, maintenant, cette école qui a été repeinte tant à l'intérieur qu'à l'extérieur, est vraiment une école qui, on peut dire, est une véritable école dans un véritable village. Et les enfants sont heureux d'aller à l'école, et chaque année, à la rentrée des classes, ben, nous amenons de la part du Secours Populaire de l'Aveyron, nous amenons des fournitures scolaires, nous amenons des blouses, nous amenons du matériel pour les instituteurs, et cette école, maintenant, est une école de référence dans la région.
Oui, je les écoute parler religieusement parce que je dois partir là-bas vers la fin de l'année pendant un mois, alors j'écoute bien ce que nous racontons.
Dans ta valise.
Allez, oui, mais il m'en faut grande. Non, donc voilà, j'ai décidé avec les bourrés, excusez-moi, comme ça, de partir là-bas pour un mois, donc je me fie à eux, ils me donneront de quoi faire, alors... Apparemment, c'est aller faire un puits ou des puits dans la brousse. former à la limite, je peux le faire, c'était mon premier métier, former des femmes maraîchères, replanter des arbres, tout ce qui était légumes et plants, ça, c'était mon premier métier, donc je peux amener cette technique, et j'ai le temps de le faire, donc je risque de partir un mois, sinon plus, pourquoi pas, et si je suis bien là-bas, je reviens pas.
Hein. Voilà, alors comme on le dit souvent, quand on va une fois à Madagascar, en général, on ne revient jamais de Madagascar.
Ben justement, on va aller faire un petit tour là avec une pause musicale. Présentez-nous ça un peu, Jean-Michel.
Alors, la pause musicale, ça va être une chanson de Mami Basta. Mami Basta, c'est Rafia Naran. Mami Basta, c'est un chanteur de malgache et qui est connu dans l'océan Indien, puisque l'année dernière, il a été à l'île de la Réunion, consacré comme le chanteur de l'océan Indien, le chanteur de l'année de l'océan Indien. Mami Basta est un humaniste, c'est quelqu'un qui axe beaucoup ses chansons sur le texte et il remet beaucoup au goût du jour des chansons anciennes, traditionnelles malgache ou de l'océan Indien, un petit peu africaine, un peu créole, un peu île de la Réunion, île Maurice, Madagascar bien évidemment, avec des instruments traditionnels malgaches comme la guitare, mais aussi guitare que l'on appelle la kabosi en malgache, et comme le valia. Le valia, instrument traditionnel malgache à partir d'un gros bambou et de cordes qui sont fixées le long de ce bambou. Voilà, donc Mami Basta, chanteur malgache très connu dans l'océan Indien, mais également en France, puisqu'il vient de temps en temps faire des tournées en France pour la communauté malgache, où en général il est bien accueilli en France parce que c'est quelqu'un qui est très connu d'un point de vue humain.
Sintiel sur cau, na munt se cul, na merdes una, na sut mi artur, se mainz manau, nient mut fau vau. Zung suf ramse, de amai na maf, de votura kin lacre, ramse u bas fava nam tut jaise, fau em tapatau. Refa male bebe, de na se gena alanan tiara vas, ne atrata o anda klas, fasazi a fa fa kel, una tet kiana me. Rats na i france, nats na i conjugue, tom passe compose, de na mafa gabne, gabne na lut be, rats san decolle. Sfiatu na famia na trafon, carta blamba pena fem buk se sen, yanara na fku, fawem tu rasu. Niles na retra tawa ya fku, atau tis fetra. Nim sunt tra klas nu atau tar ketra. Afakan pepese, denanan gyalise, na fuin fafa kapne, sirresaz marpe, fandena zafatu zarana dikwaye. Latsa latsa tseraran, numazo nomazan, fanumanan bak, fanraunanat sak, numazo amzan, mamprutsa katuman. Tanyam firenen, dena efa matu tsain, ilai tran bezeren, nyandrien yambui tsain, enrain uandran rain, ranita tran sain. Fayenrai de tziskwa, zimba mis mantan, ratsi mieza kayala, demius namtan, röpa biana tram zan, dema biana trayan. Sfiatu na famia na trafon, polikop nu lanzain, tir na wanzain, yanara na fku, fawem tu rasu. Diles na retra tawa ya fku, atau tis fetra. Nim sunt tras nu atau tar ketra.
Και πέπες γέλησε Ουνιβερσιτέ Ανταλού φανάφκου Αντανίνα ρούντου Τσία τα οκτουτού Σα τσίμ του να σου Με του ράτς με του τσάραν Ιουβού κατρίζαν Συμμέτ φιαφαράν Φαν μάσα καουα τσάινα τένια να τρατρά Τσίμ κελ σουρ καου να μουν σε κουλ Να μέρνες να να σου του νιάρ τουρ Σμάιντς μανάου
Bien après cette pause musicale, je crois me souvenir que nous avions envoyé des fauteuils roulants à Madagascar.
Oui, ça m'a passionné parce que j'avais des échos par ma fille qui y était allée, qui m'avait raconté voir des handicapés se traînant par terre, d'autres bougeant pas de chez eux. Et donc, quand c'est du concret, que ça touche vraiment. Et on s'est occupé de lancer des appels. Et je crois qu'en 2 ans, c'est-à-dire en l'année dernière, et même cette année, enfin non, l'an dernier, on en a envoyé 30 à peu près de Villefranche. Et ce qui est très agréable, enfin moi j'adore ça, c'est que les bourrelles nous envoient des photos. Et on voit des patients sur les photos, des handicapés, avec des grands sourires. Et de penser qu'on a changé la vie de ces gens, mais vraiment changé à peu de frais. Quoi. Il a fallu se donner du mal. Bon, d'accord, on a payé, on a participé au voyage, parce que c'est quand même encombrant. C'est normal. Mais j'avoue que ça, on continue, nous. Hein, on commence à en avoir un peu, là. On en a quelques-uns. Et ça, c'est quelque chose de très motivant, ça, vraiment.
Et ça, évidemment, ça a un coût. C'est 50 € par fauteuil. Voilà, et donc, à chaque fois, voilà. Il faut trouver la manière de le financer.
Jusqu'à présent. De transport.
Ouais.
Donc, ce qu'on fait, on fait une brocante. Donc, l'été, si vous nous voyez... dans un petit village, en train de faire une brocante, c'est pour envoyer les fauteuils à Madagascar.
Alors, ces fauteuils étaient destinés à des gens qui avaient été atteints, je crois, de la poliomyélite, c'est ça ?
Oui, alors, les fauteuils roulants que l'on amène à Madagascar, ce sont des fauteuils, bien évidemment, en bon état. Ces fauteuils roulants sont collectés par le Secours Populaire, essentiellement par le comité de Villefranche de Rouergue, qui nous a bien aidés également par le financement de l'envoi de ces fauteuils, puisque, comme vous le disiez tout à l'heure, en gros, c'est 50 € par fauteuil pour l'expédier départ, disons, de Villefranche de Rouergue arrivé à Madagascar, et là-bas, il faut encore l'amener sur place. Donc, tout ça, ça a un coût. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que les fauteuils roulants, à Madagascar, il n'y en a pas, ou très, très peu. Et il y a beaucoup de handicapés, accidents, bien sûr, quelques-uns de la vie courante, accidents de la route. Mais il y a aussi beaucoup d'enfants qui sont touchés par la poliomyélite. Pendant des années et des années, il n'y a pas eu de vaccination. Et donc, on se retrouve maintenant avec des enfants qui ont en gros entre 6 et 15 ans et qui ont des problèmes de motricité. On a aussi des enfants handicapés de naissance et il y a les adultes dont je parlais tout à l'heure. Donc nous travaillons avec 3 ou 4 dispensaires sur Madagascar, un sur les hautes terres, donc au centre de l'île, un sur la côte est, donc face à l'île de la Réunion, comme on disait tout à l'heure, et un sur la côte ouest, face à l'Afrique. Donc, sur la côte ouest, c'est dans la région du Ménabé, région face à l'Afrique, et qui est une région sèche, très difficile, très chaude, et où on travaille avec un ou deux petits dispensaires qui nous indiquent en priorité les gens à qui donner ces fauteuils. Sur les hautes terres, c'est la même chose, on travaille avec un dispensaire et on essaye de repérer les gens qui en ont le plus besoin. Et sur la côte est, région plus humide, plus difficile aussi d'accès par endroit, on travaille avec un dispensaire très éloignés, en brousse, où des gens, bien souvent, sont handicapés, mais n'ont aucun moyen de déplacement, si ce n'est de ramper sur le sol ou de se faire porter par d'autres personnes. Alors, avec nos yeux d'occidentaux, tout ça, c'est très difficile, effectivement, à supporter, même si les Malgaches ne voient pas les choses de la même façon. Ce qu'il faut savoir, c'est que les handicapés à Madagascar ne sont pas rejetés et ne sont pas mis à l'index comme dans certaines sociétés. Surtout les handicapés physiques, ils sont en général bien soutenus par les familles et souvent ils ont leur place dans la famille. Mais le problème, c'est le matériel. Le matériel, il n'y en a pas. Prenons l'exemple d'une personne récemment que l'on a rencontrée, une ancienne sage-femme. Ça faisait 2 ans qu'elle était dans son lit. Elle a été atteinte par un staphylocoque au niveau de la colonne vertébrale. Elle est totalement paralysée des 2 jambes. C'est une dame qui a 50-55 ans. Et ça faisait 2 ans qu'elle était dans un lit et personne ne s'était occupé d'elle. Il a fallu qu'une personne dans le village nous l'indique pour qu'on aille la voir et qu'on décide de lui offrir un fauteuil roulant. Bah, cette personne, elle était depuis 2 ans... pas sortie de sa chambre. Et sa chambre, c'était quoi? C'était 3 mètres carrés maximum, un grabat au niveau du sol, et vous voyez un peu les conditions dans lesquelles elle vivait. Le simple fait d'y avoir amené un fauteuil roulant et de mettre ce fauteuil roulant dans la cour entre 3 ou 4 maisons, ça lui a permis de retrouver les beaux jours, le soleil, de respirer un bon air, de temps en temps voir ses enfants, petits enfants, les gens du village qui passaient, etc. Socialement, elle a complètement changé de statut. Même si sa famille s'occupait d'elle dans sa petite chambre, au jour d'aujourd'hui, elle peut sortir, elle peut se mouvoir dans la cour et elle peut rencontrer des gens, reparler, et sa vie a totalement changé avec un fauteuil roulant.
On a réussi à sensibiliser certaines maisons de retraite, entre autres celle de Villeneuve, nous a donné des fauteuils, puisqu'ils en ont changé quelques-uns chez eux, et ils nous les ont remis en état. État neuf, c'est vrai que... Et alors, ben, c'est un travail de chaque bénévole, ça, de le faire et de continuer, mais c'est très motivant comme action.
Concernant les fauteuils roulants, Rodez me participe puisque on en a récupéré 20 chez un loueur de matériel qui prenait la retraite et il nous a donné tout son matériel médical. Alors, on a des béquilles et des fauteuils roulants, donc on en a 20, donc on peut, si pour compléter les voyages, on peut mutualiser le transport et fournir des fauteuils roulants.
Bien, je crois qu'aussi nous avons une expérience là-bas de culture sèche. Qu'est-ce que c'est, Paul? À vous la parole, je crois.
Oui, enfin, c'est une double expérience. D'une part, ça, ce sont les enfants de Madagascar qui mènent à cette action. Ce n'est pas directement le Secours Populaire, mais quand les enfants de Madagascar sont quelque part, le Secours Populaire n'est pas loin, il y sert. J'ai dit tout à l'heure que la population de Madagascar avait quadruplé en 50 ans. L'une des conséquences, c'est que les terres disponibles pour la culture du riz traditionnel, c'est-à-dire le riz irrigué avec un canal et une inondation de la rivière sur les surfaces horizontales, ces terres-là, il n'y en a plus. Ce sont des sites géographiques particuliers qui ne sont pas extensibles à Merci. Donc, les terres disponibles pour la riziculture traditionnelle sont à peu près épuisées. Et à partir de là, la recherche agronomique dans la région de Montpellier, française, mais aussi malgache, et vietnamienne, je crois, a mis au point des riz de culture sèche, c'est-à-dire des riz qui arrivent à pousser avec la pluie qui tombe du ciel, et pas seulement avec celle qu'on lui amène par un canal. Et c'est... Malgaches qui avaient émigré en ville, qui avaient été poussés vers la ville par la croissance démographique et qui étaient tombés dans la misère, ont accepté de revenir dans des régions où il y avait de la terre disponible, mais en pente, pas de la terre à rizière classique. c'est du côté de la région privilégiée d'action des enfants de Madagascar. Et pour moi, qui suis un Malgache d'ancienne génération, voir du riz pousser, fleurir et fructifier sur des terres en pente, c'est un peu le miracle. Mais c'est un miracle qui est sans doute beaucoup plus apprécié encore par les Malgaches que par moi. On peut compléter.
Oui, alors je complète en disant que ce projet est un projet malgache, soutenu par une grosse association malgache, et qui est en fait de récupérer des gens qui ont fui la campagne pour X raisons, qui se sont retrouvés en ville avec leurs enfants, devenus enfants des rues. Et depuis 2 ans, ce projet, que l'on appelle le projet des Sans-Terres, se situe sur les hauts plateaux, dans la région d'Antibes. Et en fait, c'est une centaine de familles qui étaient en ville, qui ont été récupérées, puisque ces familles traînaient en ville et tombaient dans une certaine forme de délinquance. Ces familles, on a pu les remettre à la campagne, dans des endroits où qu'ils connaissaient, où ils vivaient auparavant, et on leur a fourni des terres, donc des terres qui ont été louées pour un bail de 5 ans. Et donc, on a fourni gratuitement ces terres à ces gens-là. Et ces gens-là cultivent donc maintenant du riz sur terre sèche, ce que l'on appelle du varitaneti. Et ensuite, ils cultivent du maraîchage. On fait de la plantation d'agroforesterie, c'est-à-dire des arbres qu'ils peuvent utiliser très rapidement, arbres fruitiers, arbres qui leur permettent d'avoir des ressources médicales, etc., etc. Et tous ces gens qui ont été réimplantés à la campagne sont des gens qui maintenant, grosso modo, depuis 2 ou 3 ans, se sont réadaptés dans leur nouvelle vie. Alors ce que l'on peut dire, c'est que sur ce projet, il y a eu quand même 60% d'échecs, mais 41% de réussite. Nous, notre association, les enfants de Madagascar, avec le Secours Populaire, on s'occupe de la partie plutôt enfants. À savoir, on s'occupe des enfants de ces gens-là. Et depuis 2 ans, on a créé une école au milieu de ce groupe de gens. Et on a un projet donc, qui, nous l'espérons, va se pérenniser. Mais depuis 2 ans, on a un projet d'école primaire, et on finance donc le salaire d'une institutrice, on finance avec l'aide d'une autre association la cantine de midi pour ses enfants les jours d'école, et donc il y a 80 enfants qui étaient des anciens enfants de rue qui se retrouvent maintenant dans une structure et familiale et sociale et éventuellement à l'école et avec un repas complet tous les jours d'école. Voilà, donc ça c'est un projet malgache auquel est associée notre association, l'association Les Enfants de Madagascar et le Secours Populaire qui nous soutiennent dans cette action-là.
Je voulais te demander combien...
Rapidement, Nicole, parce que comme d'habitude, c'est la fin de l'émission.
Combien gagne un enseignant là-bas, un institut?
Alors, un enseignant, c'est en gros entre 40 et 50 euros par mois.
D'accord. Et ben, si je peux ou pas?
On va pas lâcher. Nicole ne veut pas lâcher la parole. Vas-y, allez-y, Nicole. Mais
je voudrais rapidement dire que les Bourrelles font un truc qui me plaît beaucoup avec leur association. Ils s'occupent de faire parrainer des étudiants, des lycéens, par celui qui voudra. C'est dérisoire comme somme à l'année. On est tenu au courant de tout, on reçoit les notes, on reçoit du courrier de nos filleuls, c'est passionnant. Et ça ne nous coûte rien. Allez, quelques paquets de cigarettes, c'est tout.
Et oui, le problème, c'est que, voilà, moi, depuis quelques années, je suis au Secours Populaire. Les Bourrelles, j'en entends parler tous les jours, ils font plein de choses, les Bourrelles. Nous avons été très très heureux de vous recevoir aujourd'hui, parce que vraiment, de vous déjà faire votre connaissance et venir exposer un peu le travail fantastique que vous faites sur place, avec les enfants de Madagascar, avec le Secours Populaire. Mais malheureusement, nous arrivons encore à la fin. David, il va falloir que tu nous donnes 2 heures par mois. Ah, juste un petit mot de Madame Bourrel, on n'a pas entendu.
Je voulais juste dire une chose, c'est qu'au niveau des enfants parrainés, nous sommes à environ 150 enfants qui sont soutenus par des familles françaises. Beaucoup le sont d'ailleurs dans l'Aveyron, puisque nous avons de grandes connaissances grâce au Secours Populaire. Et ces enfants, nous les prenons de l'école primaire, de la fin de l'école primaire, jusqu'au lycée, ça c'est le premier contrat jusqu'à ce qu'ils aient atteint leur bac. Et en fonction de leur capacité, nous allons jusqu'à l'université ou certaines écoles privées. Donc vous imaginez que 150 enfants, on ne trouve pas des parrains comme ça. Donc si vous avez envie d'être parrain, c'est avec plaisir que nous vous accueillerons dans notre association.
Bien, après cet appel, je ne sais pas, vous partez quand à Madagascar?
Dans 6 jours.
Et vous revenez quand?
Dans 1 mois et demi.
Eh bien, peut-être qu'on aura l'occasion de vous réinviter, je pense, parce qu'il y a beaucoup Merci. De choses à dire. Mais pour le moment, malheureusement, on est obligé de vous laisser. On va vous dire au mois prochain. On va remercier David qui était à la réalisation. Merci David. On va remercier tous nos auditeurs. On espère qu'on vous a fait un petit peu voyager, intéressé à cette action à Madagascar. Si vous êtes plus intéressé, venez vers nous à notre local au 46 rue Alibert, notre espace solidarité. On vous recevra et on vous renseignera. Voilà, on vous laisse encore avec un morceau de musique de Samo. Oh là là, Samo Eja, Bandi Akama, tant pis si je l'ai mal dit. Au mois prochain.
Vafitiava kwa nani nezi stwara wa zi stwara Na mafecha sumangi tzara fatcha tzara iti Feba zaka na wana sana zompe tepe Nifitiava kurecha nieta na sunye tete Nalala kwa nao china pusu kutuwiza Wembu matata Fatsuresa kenya parafara Tamnyan voluan Nakupu kwa ndi china pusu kutakuti Nenole kozu weje onfika mba nisukuti Fafkava kwa nao nine zistwara wa zistwara Nama faita sumangi tzara fata tzara iti Veba zaka na wala lasa nozo mpe Fafjava kwa nani nezi stwara wa zi stwara Kama faita sumangi tzara faita tzara iti Heba zaka na wala sana zompe tepe Nifjava kureta nieta na sunete Faseza wa manata nao, satie fatzaba kuzawa Kaneva na iya rasufu, nikoze amnawe na kuba taris Azaminu anzani, paneno msungata na tani Fafitiava kwa nao nine zistwara wa zistwara Na mafaita sumangi, tzara fata tzara iti Feba zaka na wala, sana zompe tepe Fafitiava kure Fafitiava kwa nani nezi stwara wa zi stwara Na mafaita sumangi tzara fata tzara iti Feba zaka na wani